Manifeste de Ding Ding Dong par Alice Rivière pour l'Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Encapsulé en une formule rapide, mon problème est désormais celui de l'invention d'une solution dont la nature est tout à fait comparable à celle d'un contrepoison. Tendre son existence ainsi exclusivement en direction de la construction d'une solution qui soit véritablement opérationnelle. C'est un processus qui génère beaucoup de vitalité. Tant et si bien que je me demande souvent si la vie et la fabrication active de cette solution, ce n'est pas la même chose. En matière de recherche de solutions, rien ne vaut qui ne soit mis à l'œuvre et à l'épreuve. En ce sens, ma démarche est une recherche pragmatique basée sur la notion de pari jamesien. Pour William James, quand on se trouve confronté à un problème de l'existence douloureux, coinçant, mortifère, c'est l'heure de formuler un pari, une sorte de pari thérapeutique qui vise à produire de la vitalité à nouveau. James me dit qu'une fois que j'ai formulé mon pari, je dois construire tout ce qui va me permettre de le gagner. C'est un peu comme s'il me demandait non seulement de miser sur un cheval, mais aussi et surtout de faire en sorte que ce cheval soit gagnant, en le soignant, en le préparant, en le montant, et qui sait, pourquoi pas, en devenant moi-même ce cheval victorieux. L'intelligence est une relation qu'entretient la pensée avec le réel, avec le monde et avec les autres intelligences. L'intelligence ne peut pas exister, ne peut pas se déployer si elle n'est pas tendue vers un contact, une relation d'interactivité. Pour naître et pour se développer, elle doit entrer dans un rapport presque amoureux avec les êtres et les choses qu'elle rencontre. Ce que je souhaite installer ici, ce sont les clauses qui permettront à la jeunesse de ma solution de ne pas relever d'une énergie du désespoir solitaire, mais d'une émulation collective. L'invention d'une compréhension alternative à la maladie de Huntington est un projet extraordinairement ambitieux, qui nécessite des moyens à la hauteur et un certain nombre de cerveaux pour y travailler. Le plus grand danger auquel une expérience pareille, avoir la maladie de Huntington, est exposée, c'est que la maladie soit séparée de son intelligence, ce qui tuerait un peu les deux, ma propre intelligence et les potentialités d'intelligence qui sont contenues dans la maladie. Mon pari est que la maladie de Huntington est une occasion de faire pousser de la pensée. Ding Ding Dong naît pour me donner les moyens de gagner ce pari. Ding Ding Dong est un collectif créé pour se vouer entièrement à la création d'une pensée vivante et opérationnelle sur le problème Huntington. Ce collectif ne vise ni l'information basique autour de la maladie, ni la collecte de fonds pour améliorer le sort des malades, tout ce que font remarquablement bien les associations qui ont déjà été créées autour de Huntington. C'est moins une fédération qu'un rassemblement d'individus animés par la même tension vitale à produire de la pensée innovante à partir de l'expérience de cette maladie. Le mode de communication de ce collectif pourrait être celui de la pourvocation. Aucune dénonciation qui ne soit associée à des propositions. Ce n'est pas un collectif constitué contre la maladie par exemple, encore moins contre la médecine, mais pour la fabrication de quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle, notamment cette pensée spécifiquement huntingtonienne dont l'absence aggrave la situation des malades et de leurs proches. Cette nécessité concerne également les médecins de la maladie de Huntington, qui ont besoin tout autant que nous d'apprendre en l'occurrence à habiter le rôle qui est, ou qui pourrait être le leur, alors que se pose pour eux le douloureux problème d'un savoir autorisé par le test, sans pouvoir thérapeutique. Comment empêcher ce savoir de devenir poison? Comment accéder aux possibilités d'invention tapies au sein de leurs exercices, alors qu'ils sont séparés de leur puissance au sens noble du terme? Ce manifeste ne donne pas de solution, mais souhaite provoquer un processus d'échange qui puisse déboucher sur des manières d'être, en relation les uns avec les autres, qui conviennent à toutes les parties. Il ne s'agit pas de convertir l'une ou l'autre de ces parties, mais de parvenir à des compromis satisfaisants. Un compromis implique la présence d'un intérêt qui réunit les deux parties, intérêt auquel est attachée une promesse, promis, celle de s'engager à apprendre des uns des autres, Comment faire dans une situation telle que la maladie de Huntington, qui dépasse tous les acteurs, qu'ils soient malades ou médecins? Ding Dang Dong, c'est d'abord un appel par trois cloches, qui ont des voix distinctes, mais qui sont liées ensemble comme nous trois, et qui portent dingue en leur cœur. Un appel brinque-ballant, haut et fort, pour fendre le brouhaha des pensées routinières et signaler qu'il y a urgence à ralentir. Un appel qui résonne comme « Huntington », à tel point qu'il en a été pour nous trois la conjuration sonore, dire « ding-ding-dong » quand on a trop peur de dire « Huntington ». Mais aussi dire « ding-ding-dong » quand on veut faire rire ou peur à Huntington. Comment penser quand la pensée s'altère? Comment penser quand la pensée s'altère? Comment penser quand la pensée s'altère alors que la pensée s'altère? Comment penser quand la pensée s'altère? Comment penser quand la pensée s'altère alors que la pensée s'altère? Cette idée de fonder un collectif provient naturellement de ma situation personnelle. J'ai grand besoin de renforcer mon nous-trois. J'ai grand besoin d'avoir une armée pour moi, qui protège le nous-trois de toute corruption. S'il est vrai que la maladie va un jour limiter les moyens qui sont les miens aujourd'hui, je veux dès à présent installer des garde-fous pour que cette limitation soit compensée par d'autres intelligences qui pourront continuer à alimenter mon âme correctement, en dépit et justement à partir de ces limitations. Garde-fou, non pas pour nous garder de la folie, mais au contraire pour la protéger dans sa nature intrinsèque de folie, pour favoriser son expression, pour qu'elle puisse se déployer et affecter le monde de ses enseignements fragiles. Je peux être aujourd'hui un tel garde-fou pour d'autres, mais j'aurai un jour certainement besoin que d'autres le soient pour moi. Ce projet implique que je me considère comme une Huntingtonienne. Pourtant, au stade actuel de mes réflexions, je ne peux que dire que je ne sais pas encore si je le suis. Non pas parce que je ne serai pas encore symptomatique, mais parce que tout dépend de la manière dont précisément le collectif va travailler cette si vaste entité, la constellation Huntington. Contrairement à beaucoup de maladies, notamment mentales, l'identification d'un gène spécifique à la maladie de Huntington, IT15 sur le chromosome 4, devrait fermer cette question. Suis-je ou non Huntingtonienne ? Mon propre gène porte indéniablement la marque de Huntington. Mes répétitions de CAG dépassent la normale. J'ai 44 sur cette échelle qui ne saurait mentir. Au-delà de 36, vous avez la maladie de Huntington. Ma mère a 42, comme son père. Ma grande sœur a 17. La présence de ce témoin fiable, la répétition anormale de CAG, rend cette question caduque, là où elle est ouverte et passionnante pour la plupart des maladies vis-à-vis desquelles aucun marqueur génétique fiable n'a encore été trouvé. La schizophrénie en est un bel exemple. L'un des collectifs concernés par cette maladie propose justement de refuser de se considérer comme regroupant des schizophrènes parce qu'il pense, à la lumière de l'expérience de ses membres, que la dénomination schizophrène est moins pertinente que celle d'entendeur de voix. Les membres de ce collectif entendent des voix. C'est compliqué, c'est inconfortable et parfois douloureux. Ce n'est peut-être pas normal, mais ça ne fait pas d'eux des schizophrènes, notamment parce que schizophrène signifie une chose très rapidement, qu'ils doivent prendre des neuroleptiques à vie, ce qu'ils refusent parfois ou n'acceptent en tout cas pas à tout prix. Ils préfèrent, et ils ont tant raison à mon avis, se définir comme entendeurs de voix, parce qu'alors, non seulement cela signifie qu'ils ont une compétence que les normaux n'ont pas, mais en plus que leur traitement doit viser non pas l'éradication de cette capacité supplémentaire, mais le fait de mieux vivre avec elle. Leur question n'est plus « comment je traite ma schizophrénie ?» mais « comment je vis mieux avec ma faculté d'entendre des voix ?» Grâce aux entendeurs de voix, je peux reformuler ma question. Le problème n'est pas « être ou ne pas être huntingtonienne », mais « quel intérêt y a-t-il à se définir comme huntingtonienne ? C'est transformer une question tragique en une question William Jamesienne. Quel est le meilleur pari ? Quel est le pari qui génère le plus de vie ? Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je perds en me postulant comme huntingtonienne ? La position de certains autistes est très intéressante pour traiter cette question. Contrairement aux entendeurs de voix, certains autistes non seulement acceptent, mais revendiquent leur statut d'autiste. Si et seulement si cette posture génère la reconnaissance d'un monde singulier qui est le leur et qui n'est farouchement pas le nôtre. L'autistic culture. Ils ne se fondent alors pas sur une hiérarchisation en termes de normal et de pathologique, mais sur le constat de différence. Autrement dit, ces autistes se fédèrent sous la bannière de ce syndrome médicalement défini qui s'appelle autisme, mais pour accéder tout à fait ailleurs que sur l'adhésion obéissante à sa définition médicale, handicap, déficience, écart vis-à-vis de la norme. Ce mouvement d'autistic culture débouche par exemple sur le constat de l'existence d'une autre culture, diamétralement étrangère à la leur, la neurotypique culture, c'est-à-dire la culture des gens normaux, qu'ils considèrent si plaisamment comme une espèce de pathologie incurable. L'existence de telles associations de malades est une chance extraordinaire pour moi. Si j'ai quelque assurance en abordant ce travail, c'est par contagion de leur audace. Je ne cache pas que ce projet de constitution d'un collectif s'entremêle quelque peu avec mon programme personnel d'écriture, car j'ai aussi besoin du collectif pour continuer à le réaliser. Ce projet, intitulé Tahiti Douche, est un projet littéraire et existentiel. C'est le point de départ pour la recherche de ma propre voix, de ma propre langue, de ma propre raison et de ma propre folie. L'écriture est le moyen le plus précieux et le plus fiable que j'ai à ma disposition pour accueillir les découvertes auxquelles ma vie de Huntingtonienne me contraint désormais. Parce que l'écriture est à la fois ma mémoire et mon entreprise d'invention. Je ne suis capable de ne rien inventer en dehors de l'écriture, et je ne suis capable de ne rien retenir qui ne soit consigné en écriture. Si Huntington est un monde à découvrir, elle, Huntington est de sexe féminin, sans doute parce qu'en français, terre et maladie relèvent du genre féminin, a besoin de sa langue, de sa mythologie et de ses textes fondateurs. J'ai besoin du collectif pour renseigner l'écriture qui peut dire, décrire et faire exister Huntington, grâce au témoignage qu'il pourra susciter et grâce à l'espèce de nougectivité huntingtonienne qu'il permettra de révéler. Et pour moi, il ne fait nul doute que la matière principale de cette nougectivité-là, c'est du texte. L'enjeu de Ding Ding Dong est de mettre en place un dispositif de production de connaissances qui articule le recueil de témoignages à l'élaboration de nouvelles propositions pragmatiques, dans le but d'aider les personnes qui se sentent concernées par Huntington, porteurs, malades, proches, soignants, mais aussi plus largement, toute personne qui se sent touchée par le problème du diagnostic faisant surgir une maladie avec laquelle elle doit composer existentiellement, à vivre honorablement leur maladie de Huntington. Une telle ambition contraint à inventer une forme inédite de collaboration entre concernés, entourants, chercheurs, médecine, philosophie, sociologie, histoire, et artistes, plasticiens, écrivains, vidéastes, chorégraphes, pour réunir la mission qu'elle se donne, explorer la maladie comme une terre inconnue et trouver les formes narratives à la hauteur pour bien raconter, chemin faisant, cette aventure. Il n'y a donc pas d'objectif à atteindre, pas d'œuvre qui serait prédéterminée, par exemple, mais il y a une espèce d'expédition à accomplir, dont le trajet n'est pas connu à l'avance. En nous débarrassant de l'objectif à atteindre, nous nous délestons de cette même panique qui est celle du porteur de la maladie de Huntington qui a passé le test présymptomatique et auquel on ne cesse de pointer la maladie comme la fin, le bout, la désormais incontournable destination à atteindre dans sa vie. Or tout change si nous cessons d'être seulement capturés par l'attraction effrayante de cette espèce de planète lointaine et menaçante que la médecine ne cesse de nous pointer du doigt, bien au-delà d'où nous sommes aujourd'hui, l'érigeant comme un système solaire dont le noyau serait une étoile fatale, un soleil de mort. Tout change si nous nous mettons au contraire à regarder à nos pieds, tout autour, juste derrière, juste devant, si nous nous mettons à observer la manière dont nous sommes en réalité déjà en contact avec cette chose. Tout change si nous considérons que ce qui est en train de se passer, c'est déjà du contact avec elle, autrement dit, c'est déjà de l'événement. La métaphore de la planète n'est pas fortuite. Le film Mélancolia de Lars von Trier évoque de manière particulièrement sensible les différents types de postures possibles que l'on peut adopter vis-à-vis d'une catastrophe annoncée. Pour rappel, la planète Mélancolia est sur le point de s'écraser sur la Terre. On assiste au dernier jour d'une famille composée d'un couple, de leur belle-sœur et de leur petit garçon. Le personnage du mari, joué par Kiefer Sutherland, adhère bec et ongle au discours scientifique officiel selon lequel la planète ne fera qu'effleurer la Terre avant de continuer sa trajectoire sans dommage. Il en est si intimement persuadé que lorsqu'il comprend que les scientifiques ne se sont trompés, ont menti, on ne sait pas très bien, et c'est justement pas ça l'important, pour une fois, il se suicide en avalant le poison que sa femme, moins confiante, s'était procuré. Celle-ci, Claire, jouée par Charlotte Gainsbourg, est à l'inverse celle qui ne cesse d'avoir peur. On la voit tour à tour paralysée ou gesticulée, possédée par cette frayeur, ne pouvant rien en faire à part la subir, jusqu'à la toute fin où quelque chose cède et où elle s'en remet corps et âme à sa sœur Justine, jouée par Kristen Dunst. Justine, dont on a suivi les noces humaines impossibles dans la première moitié du film, est la seule personne qui semble d'emblée éprouver, expérimenter, quel mot utiliser en français qui ne relève pas de l'expérimentation, mais qui dise le fait naturel de faire l'expérience de quelque chose, sentir peut-être un contact avec la planète. Elle partage cette capacité de ne pas se dérober avec les chevaux de la propriété, lesquels suivent toutefois leur propre circonvolution, comme pour nous dire, les chemins qui conduisent à cette rencontre relèvent d'une infinité de diversités possibles, parce qu'ils révèlent la nature de ce que chacun de nous est vraiment. Mélancolia raconte autant cette rencontre que la maladie qui en est nécessairement prélude. Une maladie étrange dont est atteinte Justine. Une maladie qui n'a pas de nom, ou plus exactement une maladie qui porterait non pas le nom de la planète qui est en train de s'approcher, mais une maladie qui serait elle-même la planète en train de s'approcher. Autrement dit, Justine n'est pas mélancolique. Mélancolia possède Justine. Et dans ces conditions, ce dont souffre Justine, c'est de ne pas encore avoir rencontré ce à quoi elle appartient déjà. Comme un poisson hors de l'eau, Justine est malade de devoir exister en dehors du règne qui lui correspond, et elle dépérit de plus en plus, jusqu'au moment où elle rencontre ce qui la fait devenir enfin ce qu'elle est. Cette rencontre donne lieu à une magnifique scène, où nue sous ses rayons, Justine s'accouple avec sa planète. À partir de ce moment, Justine mange à nouveau, elle retrouve son énergie, elle est guérie. Il me semble que l'on peut comparer la maladie de discordance existentielle qui consume Justine avec la situation d'impossible rencontre qui est celle du porteur de la maladie de Huntington, telle que les conditions de rencontre sont actuellement posées par la médecine, en tout cas. Notons d'ailleurs que dans le film, la science officielle, contrairement à ce qui se passe avec la maladie de Huntington, essaye d'être rassurante et ne cesse de proclamer que rien ne va se passer. Or justement, du point de vue du contact avec l'événement, cela revient au même. Le « ne pas s'inquiéter, il n'y a rien à signaler » et le « alerte rouge, catastrophe à l'horizon » qui provoque une frayeur tout aussi paralysante vis-à-vis de quelque chose pour lequel on ne détient aucune clé, mais qui est bel et bien en train d'advenir. Ding Dang Dong est une œuvre encyclopédique qui a pour sujet l'événement que constitue une telle rencontre avec une maladie génétique envisagée comme neuro-évolutive. Autrement dit, avec la planète mystérieuse qui possède déjà certains d'entre nous. Les chercheurs impliqués dans ce collectif, qu'ils soient porteurs, malades, médecins, philosophes, historiens, sociologues, artistes, écrivains, s'engagent chacun à apporter son savoir-faire pour expérimenter des manières d'appréhender fièrement une expérience dont les malades sont les éclaireurs et qui nous concerne tous potentiellement. Vivre avec une maladie génétiquement annoncée.